RJB, il est midi 15.
RJB Info.
Le journal Alexandre Michler.
Madame, monsieur, bonjour. La fumée a été aperçue loin à la ronde. Un incendie impressionnant a ravagé un établissement à Péry-la-Hutte hier soir, la ferme du Cécily qui a été la proie des flammes. L'établissement est complètement détruit, mais personne n'a été blessé. Nous ferons le point dans un instant avec le chef d'intervention qui était sur place. Quel avenir pour le CRISM à 3 semaines de la votation du 18 juin? Nous nous intéresserons au sort du centre de renfort d'intervention et de secours de Moutier. Élément de réponse dans quelques minutes. La Fédération rurale interjurassienne a présenté son rapport 2016 ce matin. L'année dernière a été marquée par le suivi de plus d'une centaine de projets dans la région. Un accent a aussi été mis sur la formation, vous l'entendrez. L'été est là, ciel bleu, soleil et chaleur au menu aujourd'hui et ce week-end aussi. Le point d'orgue sera la journée de dimanche avec des températures qui pourraient atteindre les 30 degrés. Le feu a donc ravagé la ferme du Cécily sur les hauteurs de Péry-la-Hutte hier soir. L'alerte a été donnée à 20h50 selon la police cantonale bernoise. On fait le point tout de suite avec Julien Gros. Il est le commandant du corps des sapeurs-pompiers de Péry-la-Hutte. Il était sur place hier soir.
Alors en arrivant, le chemin d'accès pour arriver à cette ferme étant difficile, nous sommes arrivés donc, et le bâtiment était perdu. Donc les flammes avaient déjà traversé le toit.
Est-ce qu'il y a eu des blessés ?
Pas de blessés à déclarer. 3 personnes étaient présentes dans le bâtiment au moment où le feu est parti. Et ces 3 personnes ont pu sortir par leurs propres moyens. Il y avait du bétail à proximité, mais pas de bétail dans le bâtiment. Et donc non, personne ni animaux, ni personne n'a évacué de la maison.
Combien de pompiers et quels corps ont été engagés sur l'incendie ?
Sur cet incendie, nous étions 51 personnes. Le corps de Péry-la-Hutte, d'Orvin, de Bienne, des sapeurs-pompiers de la Suze ont été engagés, avec encore l'appui des agriculteurs de la région pour l'alimentation en eau.
Quelle a été la durée de l'intervention ?
Alors, l'intervention est toujours en cours. On a toujours encore une équipe de pompiers de 7 personnes qui est sur place. Et on se relaie maintenant toutes les 4 heures. Je pense qu'il y aura une garde en place juste à minimum minuit ce soir.
Voilà, propos recueillis par Martha Duarte. Les forces de l'ordre ne donnent pas d'informations pour l'instant quant aux causes du sinistre. Une enquête est en cours. Des images impressionnantes de cet incendie sont à découvrir sur rjb.ch. Le canton de Berne prend position concernant les pompiers de Moutier. La délégation du Conseil exécutif pour les affaires jurassiennes a rencontré lundi les autorités prévotoises à leur demande pour parler de l'avenir du CRISM, le centre de renfort d'intervention et de secours de la cité prévotoise. Elle indique ce matin dans un communiqué que les tâches de la structure seraient maintenues en cas de maintien de la ville dans le canton de Berne le 18 juin. En cas de départ dans le Jura, ce serait alors au gouvernement jurassien de décider du nouveau statut et des missions du CRISM, Alexandre Stein.
Si Moutier quitte Berne, le centre de renfort d'intervention et de secours de Moutier perdrait son statut de centre de renfort bernois. Les tâches cantonales et régionales seraient confiées à un autre corps de sapeurs-pompiers du Jura bernois, selon une organisation qui reste à définir. Les 300 000 francs annuels dont bénéficie la structure, soit la moitié de son budget, seraient aussi redistribués ailleurs. En ce qui concerne les interventions sur l'autoroute A16, le canton de Berne ne dit pas que le CRISM les perdrait, mais qu'une solution cohérente devrait être négociée avec le Jura, pour le tronçon allant de Roche au tunnel de Cour. La délégation du Conseil exécutif aux affaires jurassiennes conclut en expliquant que dans ce domaine, la qualité des prestations offertes à la population prévotoise est exemplaire et qu'on ne saurait attendre une amélioration du fait d'un transfert dans le Jura. Côté jurassien, justement, le ministre Charles Juillard a déjà pris position à ce propos. Il déclare que des accords devront effectivement être trouvés, mais qu'il n'y a aucune raison de démonter ce qui fonctionne parfaitement.
À Moutier toujours, la société d'embellissement et de développement reprend du service. L'institution a relancé ses activités après avoir été confiée par la municipalité au musée du Tour automatique et d'histoire. Sa première action concerne le pavillon de Moutier qu'elle avait construit en 1904. Le belvédère situé sur les hauteurs de la commune sera désormais mieux indiqué grâce à la remise à neuf du grand panneau installé vers le stand. Le télescope du pavillon a quant à lui été envoyé en révision. Une fois de retour, il permettra aux visiteurs d'observer les traces de dinosaures présente sur une vaste dalle sur la grande arête. Une collision frontale entre 2 véhicules a fait un blessé grave hier à la Neuville. Les faits se sont déroulés peu après 14h à la route du Château. Le conducteur de la première voiture est un jeune homme de 18 ans qui a été conduit à l'hôpital dans un état grave. Le second conducteur, âgé lui de 22 ans, n'a été que légèrement blessé. A noter que suite à cet accident, les routes reliant la Neuville à Presles et la Neuville à Lignières ont été fermées durant 4 heures au trafic. Le conseil exécutif bernois accepte d'aider les étrangers à apprendre une ou plusieurs langues nationales. Il a répondu favorablement à un postulat déposé par trois socialistes de la région. Samantha Dunning, Peter Gasser et Roberto Bernasconi veulent améliorer l'apprentissage des langues officielles, Sarah Carole.
Savoir parler la langue, comme on sait, c'est un facteur clé d'intégration. Dans leur postulat, les trois élus proposaient déjà de délivrer aux étrangers un certificat du niveau de connaissance de la langue, A1, B2, etc., histoire que les potentiels employeurs puissent s'y retrouver. Le conseil exécutif va donc voir comment il peut promouvoir davantage les certificats linguistiques. Aux yeux du gouvernement, les cours de langue prennent déjà en compte les besoins quotidiens des participants. Par contre, il accepte d'entrer en matière pour les adapter davantage à leurs besoins professionnels. Par exemple, enseigner le vocabulaire nécessaire dans le secteur de la santé, de la gastronomie ou encore de la construction, selon les besoins. Enfin, se pose la question du financement, notamment pour les migrants qui n'ont pas les moyens de payer les cours de leur poche. Le conseiller exécutif accepte de plancher sur la possibilité de les rendre accessibles financièrement, également aux personnes qui ne touchent pas l'aide sociale.
Merci Sarah Carole. La commission de la formation du canton de Berne propose au Grand Conseil de déclarer valide l'initiative législative pour un débat démocratique. Votons sur les plans d'études. En revanche, elle recommande de la refuser. La commission considère que le plan d'études est un ouvrage pédagogique. La discussion sur les contenus n'est pas une tâche politique. Pour rappel, cette initiative demande que la compétence d'édicter les plans d'études de l'école obligatoire revienne en dernier ressort au Grand Conseil ou au peuple et non plus au directeur de l'instruction publique. Les graines de la formation portent leurs fruits à la Frie. La Fondation Rurale Interjurassienne a présenté son rapport 2016 ce matin. L'année dernière a été marquée par le suivi de plus d'une centaine de projets dans le Jura bernois et dans le Jura, mais aussi sur le plan national et international. La promotion des produits du terroir et de l'agritourisme a encore été développée, avec notamment le début des travaux du musée suisse de la distillation à Porrentruy et le projet Marguerite présenté récemment. Au niveau de la formation, des cours préparatoires à la maîtrise agricole fédérale ont par exemple été mis sur pied, alors que les effectifs restent élevés. Le président du conseil de fondation de la FRI, Noël Saucy.
Le bilan de la FRI est un bilan qui est relativement positif, avec un certain nombre de projets qui ont été développés, des résultats au niveau de la formation qui sont enrichissants, où on a quand même une augmentation des effectifs d'élèves. Et puis on s'aperçoit aussi que d'année en année, on a toujours plus de filles qui suivent la filière agricole, et puis ce qui est aussi réjouissant.
Une augmentation des effectifs, c'est dû à quoi selon vous ?
Cette augmentation d'effectifs est due aussi peut-être aux montres... que les jeunes montent pour l'intérêt de la formation. Il y a quand même un certain nombre de jeunes en formation qui aujourd'hui ne disposent pas effectivement d'exploitation agricole, donc ils n'ont pas le but premier de reprendre une exploitation à terme, mais qui ont cette sensibilité pour l'agriculture et pour l'environnement entre autres, et puis qui souhaitent peut-être continuer leur filière dans d'autres travaux par agricole.
Si vous deviez retenir une chose de cette année particulière dans ce rapport, ce serait quoi pour vous ?
Alors moi, je suis très sensible à tout ce qui est formation. Et puis voilà, c'est le point premier, c'est le but premier de cette fondation. C'est déjà le renouvellement de l'agriculture. Et puis la formation est un point qui est important pour moi et c'est le point que je retiendrai.
Voilà, Noël Saucy au micro de Léandre Béret. Internet nous offre des possibilités infinies ainsi qu'une ouverture sur le monde. Le web possède néanmoins une face plus cachée et obscure. Il s'agit du Darknet. Le journaliste biennois Otto Hochstetler s'est intéressé à cette thématique dans un livre qu'il vient de publier. En utilisant un navigateur Tor, chaque utilisateur peut accéder à une panoplie de marchés au noir sur Internet. On y retrouve par exemple des médicaments, de la drogue ou encore des cartes de crédit. Pour les acteurs de cette économie parallèle, le web fait office de refuge. Otto Hochstetler.
J'ai eu des contacts aussi avec des vendeurs, puis ils m'ont dit que c'est plus sûr pour lui parce qu'il peut être sûr. Il n'y a pas de concurrence qui se tape dans les nuits quand il veut vendre quelque chose. Mais pour les acheteurs, j'ai seulement lu les feedbacks des acheteurs et puis il écrit toujours c'était très vite, la livraison c'était très vite et puis la qualité c'était extraordinaire et toutes les choses comme ça, ça veut dire c'est comme avec eBay.
Au cas où la police découvre ce trafic, est-ce qu'il y aurait des sanctions pour l'acheteur aussi?
Oui bien sûr, parce qu'en Suisse c'est comme ça que vous pouvez pas acheter des médicaments partout. Et l'Office fédéral santé, et puis l'Anti-Doping Schweiz, et puis la douane, ils font toujours des contrôles. Et puis, s'ils trouvent des couverts avec des médicaments, ils vous donnent une amende pour quelques 100 francs, 200 ou 300 francs.
Voilà, propos recueillis par Anastasia Lirti-Otto-Stettler qui affirme avoir interviewé plusieurs agents de la police fédérale et des polices cantonales. D'après l'auteur du livre, des spécialistes en la matière existent, mais ils sont absents dans de nombreux cantons. Le livre est disponible aux éditions NZZ Librio, mais uniquement en allemand. 267 millions de francs, c'est le bénéfice de la Poste pour le premier trimestre de l'année, un chiffre en hausse de 75 millions par rapport à l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation avant impôt du géant jaune a lui aussi progressé pour atteindre 333 millions. Ce résultat est dû au bénéfice tiré de la vente de deux portefeuilles d'actions. Poste Finance, en revanche, reste sous pression. Le prix indicatif du lait de Centrale A restera à 65 centimes par kilo au troisième trimestre. C'est ce qu'a indiqué mercredi l'interprofession du lait. La COP a toutefois choisi de suivre la demande des producteurs et de payer 3 centimes supplémentaires. L'aide au développement craint de plus en plus les coupes budgétaires. La DDC, la Direction du développement et de la coopération, a tiré la semaine dernière un bilan positif de son action au Vietnam, dont elle s'est récemment retirée après un engagement de 25 ans. Elle a pu le faire après avoir constaté le succès de ses opérations et la bonne évolution du pays. Ce n'est pas le cas au Pakistan, qu'elle doit quitter plus tôt que prévu pour des raisons d'économie. D'autres traits de ce type ne sont pas envisagés. Thomas Greminger est directeur suppléant de la DDC.
Pour le moment, avec le plan financier actuel, ce n'est pas nécessaire. Mais évidemment, s'il y a des coupures supplémentaires, en effet, il va falloir se retirer de pays additionnels. C'est clair, la perception de la Suisse comme un pays assez riche, comme un pays profitant de la globalisation, est atteint par ce genre de retrait et par des coupures de notre aide au développement. C'est clair, ça c'est perçu par la communauté internationale de façon tout à fait négative. Il y a des attentes par rapport à notre pays.
On a noté que dans le budget 2018 et sa planification pour les années à venir, le Conseil fédéral envisage de procéder à des coupes supplémentaires que dénoncent les organisations d'entraide. Les entreprises suisses respirent à nouveau. Le nombre de faillites est actuellement en baisse. Les liquidations pour cause d'insolvabilité ont diminué de 3% sur un an au cours des 4 premiers mois de cette année. En matière d'investissement étranger, les choses sont moins réjouissantes. La Suisse est à la traîne derrière ses voisins européens. En 2016, les projets ont reculé de 90 à 88. Leur nombre reste par ailleurs toujours inférieur de moitié comparé à la période pré-crise financière. Un désir de vengeance, voilà ce qui aurait motivé le kamikaze en cause dans l'attentat de Manchester. Selon un proche de sa famille, un ami de l'homme a été tué l'an dernier dans la ville britannique. L'enquête sur l'attaque qui a fait 22 morts lundi continue d'avancer. La police évoque des progrès importants. 8 suspects ont été placés en garde à vue. Le père et un des frères du possible kamikaze ont parallèlement été arrêtés en Libye. Enfin, En Marche, en tête au premier tour des législatives françaises, c'est ce que révèle un sondage publié ce matin. Il estime que le camp du président Emmanuel Macron recueillerait 28% des intentions de vote contre 20 et 19% pour respectivement les Républicains et le Front National.
Vous écoutez RJB, il est midi 29.
Sport. Pour la première fois, le FC Sion et ses supporters ont connu la douleur de perdre une finale de Coupe de Suisse de football après 13 succès en autant de finales. La 14e a été fatale pour les Valaisans qui ont perdu 3-0 hier soir contre le FC Bâle. Déjà champion de Suisse depuis fin avril, les Rhénans réalisent ainsi le doublé Coupe-Championnat. Une fin en apothéose pour l'entraîneur Urs Fischer comme pour le président Bernhard Häusler qui, tous deux, quittent le club au terme de cette saison. Pour le dirigeant balois, a remporté la Coupe de Suisse contre le FC Sion a une valeur toute particulière. Bernhard Häusler.
Les sentiments, la profondeur des émotions, c'est presque pas exprimé à expliquer. C'était une série presque unique en Europe d'un club très fier de tous ces finales qu'on a gagnées. Mais je pense aujourd'hui, dans ce moment-là, parce que comme chacun sait que le Valais et le FC Sion, il est dans mon cœur. Et pour ça, on n'est pas content qu'on a battu Sion, on est content qu'on a gagné.
Voilà, des propos recueillis par notre confrère de OneFN, Blaise Bugil, j'en perds mes mots. Vous écoutez RJB, il est tout juste 12h30, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite un excellent week-end sous le soleil.
Merci Alexandre, il va falloir aller faire une sieste pour vous. Hein,
je crois que c'est définitivement le moment pour moi de partir en week-end.
Ah bah oui, c'est voilà. Vraiment. C'est là, ça. Vous allez dormir,
profiter du soleil, voilà, tout ce qu'il faut pour passer un bon week-end.
Ouais, bah là, c'est vraiment le moment d'y aller.
J'y vais.
C'était la cloche qui a sonné. Au revoir. Hein. Et puis pour nous, on va poursuivre quand même jusqu'à 13h dans Midi Rétro. On aura notamment de la musique avec Alain Souchon qui arrive. Cet après-midi, le soleil aura donc le champ libre pour briller dans un ciel bien bleu. Au niveau des températures, ça monte logiquement, avec des maximales prévues à 24 degrés à Tavannes, Tramelan et Saint-Imier, contre 25 pour Bienne et la Neuville et 26 à Moutier et Delémont. Et dans la suite, les experts de Météo News prévoient un temps encore très ensoleillé et chaud pour l'ensemble du week-end. Des cumulus seront quand même possibles durant les fins de journée, avec peut-être des orages ici et là.